RFI.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Alors, on dit quoi ? Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple et j'en passe. Ce sont des mots que vous avez déjà entendus. Et oui, aujourd'hui, dans Alors on dit quoi, nous parlons crypto-monnaie. Une monnaie cryptée qui fonctionne en dehors des systèmes bancaires. Il attire de plus en plus de jeunes sur le continent africain. Si certains y voient un moyen pour s'enrichir facilement, d'autres s'en méfient. Un auditeur du Bénin qui est formellement contre les crypto-monnaies nous écrit ceci. Il n'est pas question pour moi d'investir dans cette monnaie. J'ai eu à écouter le débat avec Alain Foucault et ses invités sur cette monnaie et aucun des invités ne m'a convaincu. Je souhaite bonne chance pour les aventuriers, mais mon argent sera toujours réel. Alors pour lui, c'est très clair. Les crypto-monnaies peuvent-elles aider les jeunes à être indépendants financièrement? C'est ce dont nous allons parler avec nos invités.
Alors, on dit quoi ? Benaïd Traoré.
Encore une fois, bienvenue dans notre émission. Je reçois Raoul Duro, crypto-entrepreneur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi l'un des fondateurs d'Ivoire Crypto, une entreprise créée en avril 2021 qui a pour objectif de vulgariser l'utilisation des crypto-monnaies en Côte d'Ivoire par des activités comme des crypto-barbecues, un concept pour réunir toute la cryptosphère ivoirienne et aussi faire découvrir ce concept à d'autres personnes. Également avec nous, David Nataf, cofondateur de l'Afro, une crypto-monnaie qui se veut panafricaine. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Ça va bien, merci. Et vous-même ?
Parfait, je suis heureux de parler de crypto-monnaie.
On aura avec nous en deuxième partie d'émission Ablassé Ouédraogo, ingénieur en cryptologie. Il nous expliquera en quoi consiste son travail, surtout comment fonctionne la technologie blockchain. Raoul Duro, c'est un domaine qui vous passionne depuis 2015, quand vous étiez encore étudiant. Comment est né cet intérêt pour les crypto-monnaies ?
Ben, écoutez, c'est déjà un réel plaisir pour moi de participer à cette émission. Alors déjà, en 2015, il faut dire que c'était vraiment un boom autour de la crypto-monnaie en Côte d'Ivoire, vu qu'il y avait des jeunes comme des personnes vraiment plus âgées qui souhaitaient devenir indépendants financièrement grâce à cette crypto-monnaie. Du coup, je m'intéressais de près. Et aussi, à l'Occident aussi, il y avait ce petit boom-là de Richard grâce à la crypto. Donc, du coup, tout est parti par là. Parce qu'on avait cette conquête de pouvoir devenir indépendant financièrement. Donc, dans ce cadre, je me suis donné les voies et moyens d'apprendre ce que c'est la crypto-monnaie, etc.
Et aujourd'hui, vous travaillez pleinement dans ce domaine ?
Ouais. Là, je suis déjà entrepreneur et du coup, c'est un domaine qui nous passionne. Et là, on veut partager ce qu'on a appris, tout ce qui est là. Et nous sommes là en train de faire le maximum possible pour amener la majeure partie des Ivoiriens, surtout les étudiants et la jeunesse, quoi, de s'appréhender tout l'écosystème de la crypto-monnaie et d'utiliser comme aussi un outil alternatif ou d'indépendance financière.
David Nataf, les crypto-monnaies pourraient-elles être un moyen d'indépendance financière pour les jeunes en Afrique ? Surtout que vous êtes cofondateur de l'Afro, une crypto-monnaie qui se veut panafricaine, comme je l'ai dit tantôt.
Oui, vous avez absolument raison, et Raoul aussi a raison de dire que les crypto-monnaies sont un facteur d'indépendance. C'est-à-dire que pendant 5000 ans, on a eu une monnaie qui est le fait du prince, c'est-à-dire du gouvernement.
Oui.
Et à partir de depuis l'existence de la blockchain et du Bitcoin, depuis 2009 en gros, eh bien chaque communauté peut créer sa propre monnaie. Il est évident que la création par le continent africain de sa propre monnaie, comme l'afro et les autres monnaies du continent, est un facteur d'indépendance financière et le fait d'arriver économiquement à son autonomie dans chacun des pays et dans chacune des communautés du continent.
Vous l'avez entendu tout à l'heure en introduction de l'émission, cet auditeur qui nous a écrit et qui s'en méfie très 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 fortement, il ne veut pas en entendre parler, il préfère continuer d'utiliser la monnaie fiduciaire. Il y a encore beaucoup de méfiance concernant les crypto-monnaies.
Oui, écoutez, je comprends sa position. Il faut comprendre que les monnaies digitales et les crypto-monnaies, celles qui utilisent la blockchain, ne sont pas là pour substituer les monnaies souveraines. Mm-hmm. Bien au contraire, chacun des États du continent souhaite aujourd'hui se doter d'une monnaie souveraine digitale. Donc la blockchain n'est pas l'ennemi de la monnaie locale. Mmh. La blockchain est une alternative non clivante aux monnaies gouvernementales.
Oui.
Donc il n'y a pas d'hostilité, il n'y a pas de conflit entre la monnaie que nous utilisons tous les jours et celle que nous pouvons utiliser par le biais de la blockchain.
Raoul Djourou, vous, en tant que jeune, vous, tout de suite, vous avez confiance en cette monnaie digitale ou pas tout de suite? Vous avez eu des doutes au début?
Mais écoutez, dans le début, il y a toujours des doutes, quoi. Et surtout, les doutes arrivent lorsque tu ne maîtrises pas le domaine, mm-hmm. lorsque tu ne maîtrises pas dans quoi tu veux te lancer, en fait. Tout est une question de confiance et aussi d'adaptation et de formation. Donc, oui. Je comprends, comme l'a dit également l'autre auditeur, je comprends sa position, mais en réalité, moi, je dis, c'est parce qu'il n'a pas de bonne formation, parce qu'il n'a pas de bonnes notions, parce qu'il ne sait pas comment, parce qu'il ne sait pas comment ça se passe, comment ça s'y prend, mais comment il faut s'y prendre aussi, disons, c'est un peu ça.
Avant de continuer, je vous propose d'écouter ce sujet de notre correspondant à Dakar. Une passionnée des technologies s'est déjà lancée dans l'aventure crypto-monnaie en l'acceptant comme moyen de paiement.
C'est à 80 km de la capitale sénégalaise Dakar que se trouve Bleu comme la mer, une poissonnerie dirigée par Bintangom, experte en gestion et management, mais aussi grande passionnée de technologie. Elle a accepté de nous ouvrir ses portes.
Alors, je me présente, je m'appelle Bintangom. J'ai une licence 3 en gestion management. Je suis aussi une très grande passionnée de technologie en général, et plus particulièrement de la technologie blockchain et des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, je suis fondatrice de l'entreprise Bleu comme la mer, qui s'active dans la distribution de produits halieutiques et produits maraîchers.
L'entreprise de Bintangom est la première au Sénégal à accepter que ses clients paient ses produits en crypto-monnaie, à savoir le Bitcoin, l'Ethereum ou encore le Ripple.
Il faut savoir aussi que Bleu comme la mer a une particularité. C'est la première entreprise au Sénégal, tout commerce confondu, qui accepte les paiements en crypto-monnaie, dont Bitcoin, Ethereum, Tezos, etc. Oui, nous rencontrons aussi des difficultés. Et pourquoi le projet n'a pas techniquement avancé? Donc, c'est surtout par rapport au manque de matière grise au niveau du Sénégal en termes de développement de blockchain, en termes de développeurs, smart contracts, etc. Il y a très peu de personnes qui peuvent travailler sur ce genre de thème-là, ce genre de sujet, d'où les lacunes qu'on a à ce sujet. Mais quand même, cela ne nous enfreint en aucun cas l'avancement du projet.
Justement, parlant d'avenir pour les crypto-monnaies, l'entrepreneur se montre confiante, car pour elle, le futur de l'Afrique passera tôt ou tard par cette transition monétaire.
Alors, pour les cryptos, moi, je crois qu'elles ont un très beau avenir ici au Sénégal. En particulier, bien sûr, mais surtout en Afrique. Donc, c'est une phrase que je dis souvent, l'Afrique est la terre promise de la blockchain.
L'Afrique, la terre promise de la blockchain, un témoignage recueilli par notre correspondant à Dakar, Malan Baldé. David Nattar, vous avez entendu ce témoignage. Êtes-vous d'accord avec l'interlocutrice qui y croit fortement?
Oui, elle a raison d'y croire, parce que d'abord, le continent africain n'est pas simplement l'expansion des crypto-monnaies, mais c'est aussi l'origine de la monnaie. Pendant 2000 ans, en Afrique, on a utilisé le kori comme monnaie.
Oui, exactement.
Et ensuite, avec l'Égypte, c'est là qu'on a créé le sceau et les marchands ont pu utiliser les premiers une monnaie qui était transfrontière. Aujourd'hui, avec le Kenya, les monnaies digitales ont eu leur premier cas d'utilisation avec le M-Pesa. Donc, l'Afrique est le siège des monnaies alternatives. Le Bitcoin et l'Ethereum sont utilisés comme contrepartie et comme collatéral au marché des commodities. Hein, donc de tout ce qui est pour garantir des livraisons de matières premières,
oui.
Leur vente. Donc c'est d'application constante. Donc je pense que pour une fois, c'est bien en Afrique qu'on va créer l'essor de la nouvelle monnaie comme un modèle global pour le monde. Je pense qu'elle a raison de continuer son entreprise au Sénégal. Si elle a besoin de ressources pour le développement, elle en trouvera absolument partout en Afrique, oui. Non seulement au Bénin, au Cameroun, mais également au Kenya et dans tout le continent. C'est en plein essor. Je pense que c'est aujourd'hui le continent africain qui est en pointe sur les crypto-monnaies.
Raoul Djuro, vous êtes avec nous ?
Oui, je suis là.
Ces monnaies cryptées, est-ce qu'elles peuvent rentrer dans notre quotidien comme la monnaie fiduciaire, par exemple, comme le franc CFA, par exemple ?
Oui, bon, je pense bien qu'elle peut s'intégrer dans notre quotidien, hein, parce que là, tout est une question de confiance, en réalité. Voilà. Comme l'a dit l'autre, au début, c'était la Corée, ensuite, c'est la révolution qui s'est faite, qui s'est venue mettre de tous. Et là, nous sommes dans une nouvelle ère. Je pense que s'il y a une confiance dans ces monnaies cryptées, ben, il y aura point de désaccord pour qu'une personne puisse l'utiliser. Ben. Il faut qu'il puisse partir dans notre quotidien.
Et comme cette entrepreneuse au Sénégal, certains commerçants commencent petit à petit à intégrer ce moyen de paiement dans le fonctionnement de leur entreprise. Nous avons des auditeurs qui souhaitent participer à l'émission. Est-ce que Dieudonné est avec nous ?
Allô ? Je vous réponds.
Bonjour.
Allô.
Bonjour Dieudonné.
Bonjour.
Alors vous souhaitez réagir par rapport au thème du jour hein, sur les crypto-monnaies, l'engouement des jeunes pour ces monnaies cryptées. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire aujourd'hui ?
Oui, ce que je souhaitais dire est que la crypto-monnaie est la bienvenue chez les jeunes en Afrique.
Oui.
Mais seulement qu'ils ne doivent pas se focaliser sur la crypto-monnaie uniquement pour oublier les activités des autres secteurs économiques.
Vous pensez à quoi, par exemple ?
Je pense au secteur économique primaire, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche et l'élevage.
Oui.
Oui, il ne doit pas abandonner ses activités de ce secteur.
Oui. Donc vous souhaitez que les jeunes, au lieu de se focaliser sur le trading, par exemple, pour vendre et acheter des crypto-monnaies, qu'ils se dirigent beaucoup plus vers les activités traditionnelles, hein, comme on connaît dans les pays africains.
Oui. Qu'ils concilient les deux. Les activités traditionnelles, quoi.
Oui.
Avec cette nouvelle activité.
Technologie, oui. David Nataf, vous avez écouté cet auditeur. Ces crypto-monnaies peuvent plutôt soutenir les activités comme l'agriculture ou l'élevage ou d'autres secteurs.
Oui, complètement. Vous avez raison de le dire. Les crypto-monnaies peuvent, les monnaies digitales peuvent soutenir les secteurs agricoles et tous les secteurs de l'entrepreneuriat dans le continent. La monnaie digitale peut être utilisée pour financer le microcrédit, les
oui.
projets agricoles et tout projet permettant l'entrepreneuriat. Ça peut servir de support au financement parce que dans les méthodes de prêt, c'est infiniment plus simple de prêter en crypto-monnaie et de prendre une garantie pour le prêteur, car il lui suffit d'avoir un wallet et de connaître la clé privée.
Oui.
Et avec cette clé privée, ça évite de faire tous les mécanismes de contrat, de caution, de garantie, d'hypothèque, de nantissement.
Mmh.
Il suffit d'avoir la clé privée et le wallet et vous pouvez procéder au remboursement. Donc la crypto-monnaie est le support de l'activité traditionnelle. Elle est là non pas pour substituer une activité traditionnelle, mais bien au contraire, pour l'encourager, pour la porter et lui permettre de se développer. La crypto-monnaie ne doit pas être une activité à part entière. Le trading ne doit pas remplacer l'activité traditionnelle. Bien au contraire, il doit être un support du développement sociétal.
Raoul Djuro, vous avez entendu, vous aussi, vous êtes dans une entreprise hein, de crypto-monnaie, Ivoire Crypto. Est-ce que vous soutenez des projets ? Comment ça fonctionne chez vous ?
Ben, écoutez, nous, au niveau du Batuto, la principale chose que nous faisons, c'est de former, d'éduquer en fait la population ivoirienne en termes de crypto-monnaie.
Oui.
Alors, moi, je suis pas pourri, mais je suis d'accord avec David lorsque on dit que la crypto-monnaie n'est pas pour venir substituer en fait l'activité traditionnelle. Et il ne doit pas le faire. Il doit se concilier. Parce que lui, il faut le dire que pour ces jeunes qui comprennent, qui comprendront c'est que le pouvoir, la puissance de la crypto-monnaie dans nos mœurs, vont comprendre aussi que c'est un moyen de support financier pour leur activité qu'ils veulent développer ou qu'ils veulent entreprendre, en fait, par exemple.
Oui.
C'est pour cela que nous, on met la crypto-monnaie aux avant ou comme une source alternative à l'indépendance financière des jeunes. Donc, on ne dit pas en réalité aux jeunes d'aller écouter, d'arrêter de faire vos activités traditionnelles et aller vous dans la culture. Non,
oui.
On leur dit, bien évidemment, continuez de faire vos activités, continuez d'aller à l'école, continuez de faire vos études, mais optez pour de l'investissement dans la culture.
Ils sont complémentaires.
Parce que, oui, ils sont complémentaires. Parce que nous, on se dit, l'opportunité que nous n'avons pas eue, que moi, personnellement, je n'ai pas eue, c'est que lorsque vous finissez le cursus universitaire, beaucoup de jeunes veulent se jeter dans l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, c'est un grand chantier d'avoir du financement pour leurs différentes activités entrepreneuriales.
Oui.
Et par contre, pour celui qui commence très tôt dans la crypto-monnaie à comprendre comment les mécanismes fonctionnent, et un étudiant, ben, à la fin des études, je retourne avec, franchement, dire ce qu'il faut, le bilan qu'il lui faut pour lancer sa propre activité, pour être indépendant financièrement,
oui.
Et pourquoi pas constituer en fait un arsenal technologique grâce à la blockchain et à la crypto-monnaie encore.
Merci. Nous avons un autre auditeur, Maxwell, qui souhaite réagir. Bonjour, Maxwell.
Bonjour.
Vous êtes béninois vivant au Ghana. Vos revenus proviennent essentiellement de la crypto-monnaie. Expliquez-nous comment vous procédez. Qu'est-ce que vous faites?
Exactement. Moi, j'ai découvert la crypto en 2017 grâce à Internet et tout. Et donc, j'ai fait des recherches en 2017. Et
oui.
Puis, ça m'a passionné en fait. Donc, j'ai continué mes recherches et j'ai fait en 2017 sans avoir d'informations, j'ai fait un premier investissement déjà et ce qui m'a le plus attiré, c'est l'accessibilité en fait. Le fait que sans trop me gêner, j'ai pu rapidement investir et sur quelques mois, j'ai eu à faire des bénéfices. Donc, je suis resté, j'ai poussé mes recherches pour comprendre le marché, déterminer comment ça fonctionne et comment je pourrais faire pour optimiser mes profits. Et c'est là que mon aventure en crypto-monnaie a démarré concrètement.
Oui. Vous vous êtes formé dans le domaine?
Oui, je me suis auto-formé.
Vous êtes formé sur le tard, sur Internet un peu?
Exactement, et par expérience également. Parce que, voilà, j'ai eu à faire des erreurs, j'ai eu à faire beaucoup de choses et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses.
Quel type d'erreur?
La première erreur, c'est de juste investir sur une crypto-monnaie parce que tout le monde en parle, en fait. Sans analyser la crypto-monnaie, juste investir parce que, ouais, tout le monde en parle. Ouais.
Oui.
Il y a beaucoup de choses à faire. Chaque investisseur doit partir de sa réalité, doit partir de sa vision, de ses moyens pour déterminer son plan d'investissement et également fixer ses stratégies. Donc, le problème que nous avons souvent en Afrique, c'est le manque d'informations.
Et vous n'avez pas peur des risques? Il y a quand même des risques à investir dans les crypto-monnaies.
Exactement. Mais quand on parle de risque, en fait, il ne faut pas juste se focaliser sur le risque. En fait, lorsqu'on fait le poids entre risque et avantage, on constate que les avantages sont plus énormes que le risque. En fait, quand on parle de risque, on pointe du doigt deux choses principalement. La volatilité, je dirais trois. La volatilité, le manque, l'absence de régulation et puis les arnaques.
Oui. David Nataf, vous entendez ça? Il y a beaucoup de risques. Vous êtes d'accord avec cet auditeur?
J'ai entendu l'auditeur. Il a absolument raison de dire que les avantages sont plus importants que les inconvénients. Cependant, il fait bien de rappeler, et vous faites bien de rappeler, que les crypto-monnaies peuvent également être le siège d'une fraude. Et il faut être extrêmement vigilant, se former tout le temps et essayer de comprendre comment fonctionnent les clés privées, les mécanismes des clés privées, comment garder sa clé privée. Ne jamais la partager, ne pas accepter n'importe quelle formation, n'importe quel mail, n'importe quel programme. Il faut vraiment étudier la façon dont ça fonctionne pour pouvoir devenir autonome. La confiance, c'est une confiance en soi, dans son propre apprentissage, de conserver soi-même ses propres crypto-monnaies. Il faut apprendre à le faire et passer le temps nécessaire à se former. Sinon, vous pouvez être la proie de tous les aigrefins de la toile et du web qui vont essayer de s'emparer de votre clé privée. Une fois que vous avez émis vos crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin, l'Ethereum ou n'importe quelle monnaie comme l'Afro, qui est la monnaie panafricaine, sur un wallet, vous devez garder absolument secrète votre clé privée. C'est un petit peu comme votre code de votre carte bancaire ou votre code sur Orange Mobile Money ou tous les autres procédés de paiement. Vous devez vraiment apprendre et vous sensibiliser aux crypto-monnaies.
Et il faut surtout ne pas perdre les clés, parce que si on les perd, c'est terminé.
Vous avez complètement raison. Ne jamais perdre les clés. Une crypto-monnaie que vous avez sur votre wallet, c'est comme de l'or que vous avez dans un coffre. Si jamais vous avez donné les clés du coffre, n'importe qui peut rentrer et devient propriétaire à votre place de vos crypto-monnaies.
Oui.
Donc, il faut être extrêmement prudent avant de se lancer dans les activités de trading. Et Maxwell a eu du succès dans le trading. Il connaît le terrain. Il sait comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Il peut faire de l'arbitrage. Il peut acheter, vendre. Il a une connaissance extrêmement étendue d'un expert en crypto-monnaie. Donc, il peut gagner de l'argent. Mais attention, ça peut être aussi extrêmement dangereux. Il faut avant tout passer, à mon avis, des semaines, voire des mois, à se former avant de se lancer là-dedans. Mmh. Je parle là du trading.
Oui.
Pour autant, s'agissant de l'afro, c'est complètement différent. L'afro, c'est une monnaie que nous voulons panafricaine, pour tout le continent. Nous avons mis l'accent sur la sécurité informatique, nous avons mis l'accent sur la transparence de notre blockchain. Chacune des opérations est traçable.
Mmh.
L'afro, c'est l'arme contre le blanchiment, l'arme contre la corruption, et c'est la monnaie qui pourra servir à faire toutes les transactions possibles dans le continent en engendrant une fiscalité pour chacun des États qui adoptera l'afro.
Oui. Voilà. Et c'est aussi pour rassurer les utilisateurs. Merci à Maxwell d'avoir participé à notre émission. David Nataf, on vous garde encore un tout petit peu. Quand on parle de cryptosphère, c'est surtout tout l'environnement qui entoure la blockchain. On en parle juste après ça. Sona Jobarté. Chanteuse et joueuse de kora gambienne Sona Jobarté qui chante les merveilles de son pays dans ce titre Gambia. Bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Vous écoutez RFI et nous discutons de l'intérêt des jeunes pour les crypto-monnaies avec des jeunes qui surfent dans la cryptosphère. Raoul Duro, crypto-entrepreneur en Côte d'Ivoire, et Ablassé Ouedraogo qui vient de nous rejoindre. Bonjour Ablassé Ouedraogo et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en cryptologie et président de l'Association pour la protection du cyberespace national au Burkina Faso. Expliquez-nous en quoi consiste le travail d'un ingénieur en cryptologie, sans rentrer dans tous les détails techniques.
Hein. Ah, d'accord, il faut dire que la cryptologie, c'est la science du secret. Donc, c'est utilisé dans notre domaine, dans le domaine de la cybersécurité,
oui,
pour voir dans quelle mesure on peut sécuriser les transactions électroniques. Comment chiffrer et les informations pour le faire passer par le réseau.
Oui.
En deux mots, voilà ce que j'ai dit par rapport à la cryptologie.
Est-ce que c'est accessible à tout le monde?
Bon, pas tout le monde, pas forcément, puisque c'est basé sur des notions et mathématiques et informatiques combinées. Mm-hmm. Donc, il faut avoir les notions là-dessus pour pouvoir s'en sortir.
Pour débuter, du coup, il faut étudier, il faut se former, s'inscrire dans une formation qui correspond à ce domaine-là.
Effectivement, il faut avoir fait des études supérieures en maths, mm-hmm, avant de se lancer dans la cryptologie.
Oui.
Alors, le pilier le plus connu de cette technologie, c'est la cryptographie.
Oui.
Alors, qui est utilisé pour le chiffrement. Et l'autre point, c'est la cryptanalyse, qui était de tester la robustesse des solutions cryptographiques proposées.
Mm-hmm. Raoul Duro, vous avez suivi à la même formation, vous vous êtes formé en cryptologie ou comment ça s'est passé pour vous?
Ben, écoutez, moi je n'ai pas fait la cryptologie comme un très cher ami auditeur. Ben, la cryptologie c'est vraiment très très...
C'est très très pointu.
Très très pointu.
Oui.
Non, pardon. En fait, nous, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On enseigne les techniques d'investissement de la crypto-monnaie. Et là, tout à l'heure, David parlait plus de trading, de trading.
Mm-hmm.
Et il faut dire qu'en réalité, ce n'est pas que le trading qui est la seule manière d'investir la crypto-monnaie.
Mm-hmm.
Il y en a plusieurs d'autres manières. Mais il faut comprendre les risques qui englobent ce milieu, ce monde de crypto-monnaie dans lequel on vit, on vivra.
En Côte d'Ivoire, est-ce que vous constatez que les jeunes s'intéressent de plus en plus à ce domaine-là pour s'y former?
Ouais, en fait, aujourd'hui, l'environnement ivoirien demande à ce que justement les jeunes s'intéressent à la crypto-monnaie parce que il y a plusieurs business qui se créent, qui arrivent en Côte d'Ivoire, qui sont basés un peu sur la crypto-monnaie. D'autres, la majeure partie des jeunes cherchent à devenir indépendants financièrement. D'autres se constituent en fait une base en crypto-monnaie. Donc, en réalité, les encadrements les recentrent sur la crypto-monnaie, c'est comment gagner de l'argent à la crypto-monnaie. Mm-hmm. C'est ça en réalité.
Ablassé Ouédraogo, au Burkina Faso, est-ce qu'on peut dire que la blockchain peut aider les jeunes à être indépendants financièrement, à se lancer dans des projets personnels pour les financer par exemple?
Effectivement, la blockchain a du potentiel pour accompagner les jeunes dans leurs projets entrepreneuriaux.
Oui.
Malheureusement, on constate chez nous que le volet le plus en vogue, c'est le trading des crypto-monnaies, qui n'est qu'un point de cette technologie-là.
Oui.
On peut l'utiliser pour mobiliser des ressources pour financer son projet avec la technologie blockchain. Au-delà du trading que je ne conseille pas forcément pour les novices, on peut l'utiliser pour générer des ressources pour financer son projet. On a par exemple les ICO qui étaient en vogue dans les années 2017-2018. De nos jours, pas trop, mais si votre projet est bien ficelé, c'est ouvert au grand monde, au lieu de faire un business plan qui est déposé au niveau local, un ICO est accessible au monde entier.
Mm-hmm.
Donc, vous pouvez avoir un financement venant de l'extérieur si votre projet est vraiment viable. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle la finance décentralisée.
Oui.
Qui est en vogue depuis l'année passée.
Mm-hmm.
Avec cela, vous pouvez faire des prêts même à travers la blockchain.
Pour financer ces projets.
Effectivement, pour financer ces projets. Que ce soit des prêts ou des emprunts à travers la blockchain.
Oui. David Nataf, avant de vous dire au revoir, c'est une occasion pour les jeunes justement de ne pas compter que sur les banques classiques qu'on connaît, de se tourner un peu vers la blockchain pour se faire aider dans des entreprises.
Oui, complètement. Raoul nous a parlé de la Côte d'Ivoire et de son projet Ivoire. La Côte d'Ivoire est vraiment en avance sur les crypto-monnaies. C'est le premier pays à avoir signé un contrat pour un service public souverain avec une blockchain.
Oui.
Nous avons eu la chance...
Et ça, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que la Poste de Côte d'Ivoire a signé un contrat pour l'utilisation de la blockchain de la Pro pour tous les courriers recommandés.
Oui.
C'est une utilisation de la blockchain comme un registre de preuves qui va conserver la preuve des recommandés, des émetteurs, des destinataires et du contenu. Donc on utilise la blockchain comme une fonction de preuve en droit privé. La Côte d'Ivoire, à cet égard, est vraiment en amont des autres États du monde, parce que c'est le premier pays à avoir vraiment signé un contrat entre un gouvernement et une blockchain.
Oui.
Donc et c'est important à nouveau d'expliquer à quel point on est moteur en Afrique sur la crypto-monnaie. S'agissant des entreprises, vous m'avez demandé...
Oui, voilà, si un jeune décide de se lancer, par exemple.
Si un jeune décide de se lancer, il va pouvoir recevoir des prêts en crypto-monnaie. Il va pouvoir définir son projet, expliquer son projet. Et des prêteurs ou des investisseurs vont pouvoir lui prêter en Bitcoin, en Ethereum ou en d'autres monnaies. Et il va pouvoir lancer son projet ainsi, son entrepreneuriat va pouvoir être soutenu par des crypto-monnaies.
Oui. Merci beaucoup David Nataf d'avoir pris le temps de participer à l'émission. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'Afro, la crypto-monnaie qui se veut panafricaine. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Alors on dit quoi ?
Alors justement, quand on parle de la blockchain, imaginez-vous que c'est aussi le nom d'un restaurant dans la capitale burkinabé. La propriétaire qui se définit comme une crypto-enthousiaste, vous avez bien entendu, nous expliquera tout à l'heure le concept de son restaurant. Mais avant, on écoute le groupe Bifenix du Mali qui nous a laissé un message sympathique. On les écoute.
Bifenix, my.
Salut la famille, nous c'est les Bifenix. Nous sommes deux jeunes artistes animés d'une passion commune qui est la musique. Et d'un rêve commun qui est de faire voyager cette musique au-delà des frontières. Nous sommes maliens, nous ne voulons pas imiter, nous voulons créer, nous ne voulons pas être imités, nous voulons juste inspirer, inspirer nos jeunes frères de telle sorte qu'ils soient encore plus créatifs que nous. On espère être un jour une fierté pour l'Afrique, un exemple pour tous les Maliens, Inch'Allah. Le son, au fait, tu sais, c'est tout d'abord un extrait de notre première mixtape Antara qui est sorti le 3 avril 2021. Dans ce son, on essaie de faire un petit résumé de ce que vivent tous les hommes timides au quotidien. Imagine, tu kiffes une fille à l'école, à la fac ou au boulot. La nuit avant de dormir, tu calcules tout ce que tu as à lui dire, mais le lendemain, dès que tu la vois, tu paniques, tu oublies tout. Donc dans le son, beaucoup de personnes vont se voir. Là, big up à RFI, merci beaucoup pour le soutien. Allez-y, écoutez le son. Blessing.
Au fait, tu sais. Maintenant tout me fait gaffe comment il fait. Mais unité des mousseaux des baignons qu'on qu'elle fait pour ma belle. Ben a qui des blagues à taille. Un bébé faculté que l'un de la boulou sans faire. Un caron y ben don mené bidon bito kodon biga numéro don biga classique on aussi guillore don. Biga leçon ta herbe don biga sport que mon mambe don liga règle ben a jour mina boudon. A te baline la nico qui t'en don. A te baline la nico qui te fait un gnon don. Girl, fa vene la nebo don. Et de vega fa donne la me eto don. A te baline la nico qui t'en don. A te baline la nico qui te fait un gnon don. Baby girl, fa vene la bebo don. Et de vega fa donne la. Je suis vite, a venu kunde la. Kakuma y fe mene da do munde la. Ingere la ila kuma betunune la.
Tiri kere do nere ba de koka da ye toro nere bo do mbega chansi da mai na ganyo hondo. Abe digi nela niko ki tanto. Abe digi nela niko ki te fe ganyo hondo. Fade bala ambe bo don. Ede bega falo cheni na me eto don. Abe digi nela niko ki tanto. Abe digi nela niko ki te fe ganyo hondo. Fade bala ambe bo don. Ede bega falo cheni na me
eto don. Abe digi nela Kakuma ife meneta do mundi la. Ingere la ila kuma betununa. là, avec tout nous n'est là, l'état de monde est là. Absega que me sirai gana vunkena, absega que me sirai gana garodia. Yara ni le bene du soukoune là, ni ma son n'est là, ou t'es na koune là.
Merci beaucoup Omar Sidibé et nous Ibrahim Maïga qui forment le groupe Biphénix et nous écoutions à l'instant au fait tu sais un titre de leur premier mixtape intitulé en Bambara Antara pour dire qu'ils ont pris leur envol.
Alors on dit quoi?
Et nous accueillons Nathalie Roxane Naba du Burkina Faso. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous vous définissez comme une crypto-enthousiaste. Expliquez-nous pourquoi cet enthousiasme pour les crypto-monnaies.
Déjà, il faudra retenir que la crypto-monnaie est une passion pour moi.
Oui.
Et je voulais dans ce secteur il y a maintenant 5 ans. Voilà, j'ai été formée par un grand leader de ce domaine appelé le leader Bamouni.
Oui.
Celui-là même qui m'inspire beaucoup et qui m'amène à traverser des moments, on dirait, compliqués, voilà, pour atteindre mes objectifs dans le domaine de la crypto-monnaie.
Et vous avez même créé votre entreprise, hein, eCash Exchange, dans ce domaine. Vous êtes aussi la promotrice de Blockchain, un restaurant qui accepte les crypto-monnaies à Ouagadougou. C'est le premier du genre d'ailleurs, si je ne me trompe pas.
C'est ça, c'est bien ça.
Ouais. Pourquoi avoir choisi d'accepter que vos clients payent en crypto-monnaie?
C'est comme je le disais tantôt, je suis une crypto-enthousiaste.
Oui.
Il fallait vraiment matérialiser cette passion. Voilà, je suis la promotrice du restaurant Blockchain, mais le propriétaire du restaurant, c'est celui-là appelé le leader Bamouni.
Oui.
Voilà, c'est lui qui a eu l'idée depuis 2017.
Mm-hmm.
Voilà, et il a essayé de nourrir l'idée jusqu'en 2020, où il a décidé de matérialiser cela.
Est-ce que c'est quelque chose qui a suscité la curiosité des Ouagalais?
Exactement. Pour ceux-là qui ne s'attendaient pas, vu que tout le monde en parle, tout le monde parle de la crypto-monnaie, mais
oui,
ils ne savent pas qu'est-ce que c'est exactement. Et du coup, voir un restaurant appelé la blockchain, c'était vraiment quelque chose de fantastique pour eux. Donc, ils étaient pressés de venir découvrir le restaurant et voir ce que nous proposons.
Et expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Le client procède, comment il finit de passer sa commande et il doit régler la facture, comment il doit faire?
Déjà, nous devons retenir que le restaurant accepte du cash et également de la crypto-monnaie.
Oui.
Et aussi les réseaux de paiement. Déjà, pour ce qui concerne la crypto-monnaie, nous avons imprimé nos QR codes qui sont disponibles sur chaque table.
Oui.
C'est-à-dire quand le client finit de consommer, qu'il doit passer à la caisse. Voilà, il suffit juste de prendre le QR code et scanner à travers son téléphone.
Mm-hmm.
Et là, il règle la facture.
D'accord.
Et s'il doit passer par les réseaux de paiement, et nous avons également nos adresses qui sont installées sur un bout de papier. Voilà, il suffit juste de copier l'adresse et mettre le montant à envoyer.
Est-ce que d'autres restaurateurs ou commerçants se sont approchés de vous pour s'inspirer de ce moyen de paiement au Burkina Faso? Quelque chose qui n'est pas habituel?
Oui, exactement. Après l'installation de la blockchain, il y a d'autres restaurants qui se sont approcher de nous pour comprendre comment ça fonctionne.
Mmh.
Et ils acceptent également le paiement par la crypto-monnaie. Il y a également des boutiques de vente de vêtements qui ont également accepté le paiement par crypto-monnaie.
Oui.
Il y a aussi des hôtels qui acceptent ce moyen de paiement.
Oui. Merci beaucoup Nathalie Roxane Naba d'avoir accepté de partager cette expérience avec nous et nos auditeurs. Merci à vous et très bonne journée à Ouaga.
Merci bien, également.
Avant de prendre notre dernier auditeur, Raoul Duro, pensez-vous que ce type d'initiative comme le restaurant blockchain, c'est un bon moyen de vulgariser l'utilisation des crypto-monnaies?
Ah ben évidemment, je pense très bien que c'est un très très bon moyen d'ailleurs de vulgariser la crypto-monnaie. Parce
oui.
Que la première règle d'une crypto-monnaie, c'est bien évidemment qu'elle soit utilisée.
Oui.
Elle est faite pour les échanges, mais il faudrait qu'elle soit utilisée. Parce que si on veut interpréter la crypto-monnaie uniquement comme un actif numérique,
oui,
bien, ça perd tout son sens en réalité. Donc, il faudrait que la crypto-monnaie soit utilisée. Et aujourd'hui, la plus connue est le Bitcoin.
Mm-hmm.
Mais en réalité, en tant que commerçant, on accepte par la... Tu prends le concept Il faut comprendre les avantages et mesurer les risques que cela pourrait ressentir si ce dernier-là accepte la crypto-monnaie. Tout ça, il faut comprendre. Mais en réalité, je le dirais toujours, que celui, le restaurant qui accepte la crypto-monnaie comme moyen de paiement, surtout le Bitcoin ou l'Ethereum, bien évidemment, il se fera plus de chiffre d'affaires que je ne sais pas.
Ablassé Ouédraogo, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vulgariser les crypto-monnaies pour que les populations puissent avoir confiance à ces monnaies digitales?
Donc, pour vulgariser ces moyens de paiement et des dernières générations, je pense qu'il faut, plus de conscience, il faut instaurer la conscience même au niveau de la population, en commençant même par des actions de sensibilisation et de formation à la matière. Parce qu'il faut aussi constater que le milieu aussi regorge beaucoup, je dirais, d'escrocs qui profitent de l'ignorance de la masse.
Oui, les risques, on en parlait tout à l'heure. Ces risques dont on parlait.
Effectivement. Donc, il faut que nos États prennent les mesures nécessaires pour sensibiliser et aussi encadrer par des tests. Il faut aussi encadrer cela par des tests pour éviter les dérives en la matière.
Quelqu'un qui ne connaît pas, un commerçant par exemple, il veut installer ce mécanisme, comment devrait-il procéder?
Parce que le conseil que je peux lui donner, c'est de trouver et utiliser ce qu'on appelle les stablecoins. Les crypto-monnaies qui ne varient pas trop, qui ont une valeur fixe. Parce que vous pouvez vendre vos produits à ce prix, en bitcoin par exemple, et d'ici le lendemain, ça change de valeur dans votre trésorerie. Donc, ce n'est pas vraiment très adapté pour le quotidien, les achats du quotidien. Donc, il faut plutôt viser les crypto-monnaies qui sont instables. Comme on parlait tantôt de l'afro, qui parle sur une crypto-monnaie stable. Donc, au-delà de cela aussi, il faut vraiment se former à la matière pour éviter les intermédiaires. J'insiste là-dessus parce qu'au Burkina Faso, ça a été vraiment un grand phénomène. Et l'État même était obligé même de gérer les comptes de certains acteurs du domaine pour des suspicions de blanchiment d'argent, d'arnaque et autres.
Nous donnons la parole tout de suite à notre dernier auditeur, Silver, fidèle auditeur d'Alors on dit quoi, qui nous appelle du Togo. Bonjour.
Bonjour, Fonay, bonjour à tous.
Vous êtes lancé dans les crypto-monnaies il y a 7 mois. Qu'est-ce qui vous a attiré?
Déjà, il faut dire que, déjà, par le passé, très très jeune, j'étais intéressé par le fait de gagner de l'argent grâce à Internet, en fait.
Oui.
Grâce à Internet. Et donc, ça m'a emmené comme ça vers plusieurs sites et des sites où on parlait de crypto-monnaies, mais dans les temps, je ne savais pas trop de quoi il s'agit. Et donc, par hasard, j'ai entendu parler d'une formation en crypto-monnaie. J'ai dit, puisque je suis de nature à aimer la formation, j'ai dit, pourquoi pas aller sur la formation. Mm-hmm. Et déjà, une fois que j'ai entamé la formation, je me suis dit, j'ai découvert que vraiment, c'était un domaine vraiment passionnant. Et donc, en gros, c'est comme ça que je me suis lancé dans les crypto-monnaies, en fait. Et juste après la formation, j'ai commencé par faire du trading, du staking, que ce soit du holding, etc. Je suis dans les crypto-monnaies maintenant, en fait.
Vous en vivez?
J'ai envie. C'est mon activité principale là, actuellement. C'est mon activité principale. Bien, il y a des activités secondaires. Mais la plupart du temps, ce sont les crypto-monnaies.
Vous achetez et vous revendez?
Et j'achète, je revends sur des marchés financiers, bien sûr, que ce soit des plateformes de trading. Mm-hmm. J'achète, je fais du holding parfois. Et aujourd'hui, si jamais quelqu'un veut me faire un don ou bien une transaction, je préfère être payé en crypto-monnaie plutôt que d'accepter nos devises.
Mais cela veut dire que les jeunes Togolais s'y intéressent de plus en plus?
Si. Les jeunes, de par mon expérience, de par les contacts que j'ai, il y a pas mal de jeunes qui se sont lancés dans les formations en crypto-monnaie. Mmh. Et bon, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Ghislain Awaga, pour ne citer que lui, c'est un jeune qui s'est fait pas mal de fortune grâce au trading.
Oui.
Pas forcément le trading, mais crypto-monnaie, mais le trading quand même. Le trading aujourd'hui auprès des jeunes, c'est un domaine qui passionne pas mal de jeunes. Et bon, vu qu'il y a plusieurs formes de trading, et je préfère moi personnellement, me tourner vers le trading des crypto-monnaies, ce que la plupart des jeunes font aujourd'hui, plutôt que d'aller vers d'autres trading plus risqués en fait.
Oui. Merci beaucoup Silver d'avoir participé à notre émission.
C'est moi qui vous remercie.
Très bonne journée à vous. Raoul Jourot, un dernier mot rapidement. Vous avez entendu hein, cet auditeur, les jeunes se tournent de plus en plus vers la formation de traders, de trading. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme dernier mot rapidement?
Alors, c'est d'encourager en fait toute la jeunesse qui soit africaine principalement, de s'intéresser à la crypto. Mm-hmm. C'est vraiment très important. De se faire former avant toute chose.
Il faut comprendre le rouage.
Pour comprendre le rouage, pour comprendre les systèmes d'investissement, pour comprendre tout et tout et tout. Et lorsqu'ils sont formés, de pouvoir avoir bien évidemment un mentor qui va même les orienter dans tout le processus de leur investissement, de leur adaptation.
Oui.
Soit si vous faites du trading, soit si vous faites du holding, du staking, comme bien évidemment l'a dit plusieurs auditeurs ici.
Alors, oui.
C'est de se former, les interroger, parce que oui, effectivement, la crypto-monnaie a aussi un moyen de
oui, le mentorat, c'est effectivement une bonne idée. Ablassé Ouédraogo, un dernier mot rapidement.
Bon, un dernier mot, je veux lancer, je dirais, un conseil à nos frères de l'Afrique.
Oui.
De voir au-delà de trading, des crypto-monnaies, les opportunités qu'offre la blockchain.
Oui.
On a parlé de la DeFi, la finance décentralisée, qui est une grande opportunité pour l'entrepreneuriat. Au-delà de cela, on a ce qu'on appelle les NFT.
Mm-hmm.
Voilà, les jetons non fongibles. Qui est beaucoup utilisé de nos jours dans l'art.
Oui.
Dans l'art. On peut numériser de façon unique et vendre son art. Avec mm-hmm. l'avènement du Covid et le problème d'insécurité au Burkina, on reçoit que du tourisme. Je pense que nos artistes peuvent utiliser cette opportunité aussi pour vendre en ligne leur art. À travers la blockchain, on peut ce qu'on appelle tokeniser. Numériser son art de façon unique et le ranger dans la blockchain et vendre ça en ligne. Donc, c'est une opportunité. Et j'invite aussi aux développeurs informatiques aussi de proposer des solutions concrètes à nos résultats à travers la blockchain.
On peut faire
l'authentification des documents aussi à travers la blockchain. Même le frontier, ainsi de suite. Il y a plein d'opportunités.
Il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Merci beaucoup à Ablassé Ouédraogo. Vous êtes ingénieur en cryptologie au Burkina Faso. Merci d'avoir participé à l'émission. Et merci à Raoul Djuro, crypto-entrepreneur et cofondateur d'Ivoire Crypto, une entreprise créée en 2021. Merci à tous les deux d'avoir participé à Alors on dit quoi?
Merci beaucoup.
Merci à l'équipe d'Alors on dit quoi, Beverly, Donatien et Guillaume. Samedi prochain, nous parlerons des vacances. Qu'avez-vous prévu de faire pendant vos vacances, surtout quand vous vivez dans un pays du Sahel où les populations sont durement touchées par la crise sécuritaire? On vous attend, venez en parler avec nous dans Alors on dit quoi en nous écrivant sur le numéro WhatsApp de l'émission 0033 647 740 742. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.
Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits.
Légendes urbaines. Juliette Fiévet.
Hello la famille, je vous donne rendez-vous avec les plus grandes légendes des cultures urbaines.